L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Je sais pas vous, mais moi j'adore la musique, les concerts, mais en particulier les expériences exceptionnelles. Et je sais pas si vous connaissez le Cercle Musique. Ils organisent des concerts monumentaux, pas forcément avec beaucoup de monde, mais avec des artistes plutôt électroniques, dans des lieux complètement iconiques, en liant les deux. Ils sont quand même plutôt connus, il y a 1 million de personnes sur Facebook, un peu plus d'1 million de personnes sur YouTube, quasiment 500 000 personnes sur Instagram, mais j'ai réalisé que tout le monde ne connaissait pas. Et aujourd'hui, je reçois Derek, qui est le fondateur du Cercle, qui est finalement un média, et lui ne parle pas beaucoup, donc vous allez avoir la chance de l'entendre et de comprendre son histoire et comment il a créé ça, et comment surtout on crée du lien à travers la musique. Moi, je trouve cet épisode différent et en même temps très touchant, donc je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti.
Bonjour, Derek.
Bonjour.
Ça fait longtemps que je suis passionné de musique électronique et je me suis dit que c'était intéressant de te recevoir. Donc, tu as créé le Cercle. Et alors, de manière assez étrange, comme je te disais tout à l'heure, quand j'en parle, les gens me disent le Cercle, c'est-à-dire... il y a plein de gens qui connaissent, il y a énormément de followers, mais après, il y a aussi plein de gens qui ne connaissent pas. Donc, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le Cercle dans
un premier temps ? Alors, Cercle, on est un média culturel. On organise et on retransmet des concerts de musique électronique un peu partout dans le monde, un lundi sur deux, dans des lieux insolites, naturels, patrimoniaux, culturels. Donc on a fait déjà plus de 120 concerts à travers le monde, dans des lieux comme le château de Chambord ou la tour Eiffel ou beaucoup d'autres lieux, le château de Fontainebleau.
Ça c'est pour la France.
Ça c'est que pour la France, voilà. Par exemple, la dernière émission c'était à Singapour, au-dessus du Marina Bay Sands, l'hôtel qui est très iconique là-bas. On a fait des dates à New York, par exemple à l'Intrepid Airspace Museum, qui est un porte-avions. Enfin voilà, on a fait beaucoup de lieux comme ça. Et en fait, on allie la musique électronique avec ces lieux et on retransmet tout ça en direct sur Facebook.
D'accord.
C'est important.
Et c'est suivi par pas mal de monde en réalité.
C'est suivi par pas mal de monde. Là, on est suivi par plus d'un million de personnes sur Facebook et aussi plus d'un million de personnes sur YouTube. Ça fonctionne de mieux en mieux. Tous nos concerts sont complets et assez vite en général. On est très suivi avec des gens très engagés.
Et je suis assez satisfait parce qu'en fait, tu me disais que vous donnez pas beaucoup d'interviews, peu de moins en moins.
Oui. Enfin,
et en fait, je voulais parler avec toi parce que moi, donc, mon podcast, il parle beaucoup de liens, de liens à soi, liens aux autres et liens à la nature. Et en réalité, la musique fait ça. Et ce que vous faites ou ce que tu fais avec le Cercle, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se rendre compte et il faut aller voir sur YouTube ou si vous connaissez pas, ou sur Facebook ou sur Instagram. C'est des lieux complètement fous et c'est extrêmement beau. Il y a plein de liens que tu crées avec ça. Il y a le lien, peut-être qu'on va commencer par le lien entre les artistes et les lieux. Mmh. Et après, on parlera du lien entre la musique et les personnes. Il n'y a pas toujours du public d'ailleurs.
Non, il n'y a pas toujours du public, mais il y a toujours du public quelque part. Il n'y a pas du public sur place, mais il y a toujours du public en ligne.
Exactement.
Le lien entre l'artiste et le lieu, pour nous, c'est très important. Donc en général, on part toujours du lieu. Donc on réserve, enfin déjà on trouve un lieu, on réserve une date et à partir de là on va chercher un artiste qui colle au lieu. Donc ça c'est plutôt le métier de mon directeur artistique, Philippe Tuchman. En gros, sa mission, ça va être d'aller visiter le lieu et de voir qu'est-ce qui pourrait coller en termes de musique ou en termes d'histoire. Par exemple, tout à l'heure, je te racontais un concert qu'on avait donné dans un igloo aux Arcs. Donc, et on a invité l'artiste Molécule qui avait fait son dernier album en fait, au Groenland, qui avait samplé des sons au Groenland et tout son album, -22,7 degrés. Était fait là-bas. Du coup, ça, il y avait vraiment un sens très important de l'inviter dans un igloo à -4 degrés, ce qui était assez particulier comme concert. Mais...
C'est clair. T'as d'autres exemples de...
Oui.
Parce que moi, j'ai vu dans des canyons, enfin au bord de falaises, j'ai vu des choses incroyables en fait.
Oui. Après, il y a des exemples. Il y a aussi des artistes qui vont s'approprier le lieu et de manière assez géniale, quoi. Par exemple, je pense à Vicken Armand. C'était une des premières émissions, enfin en tout cas au tout début de Cercle, qu'on avait invité au Belvédère des Caillettes. C'est un belvédère qui est sur la forêt d'Orléans. Et en fait, il a fait, c'était un live, hein, c'était pas un DJ set, et il a vraiment improvisé quelque chose d'incroyable là-bas, qui collait vachement bien à la forêt. Donc là, c'est plutôt l'artiste qui va créer le lien entre le lieu et sa musique. Comme par exemple FKJ, je ne sais pas si tu as vu l'émission, FKJ au Salar d'Uyuni, qui est le plus grand désert de sel au monde. Et donc il était au milieu du désert de sel avec la réflexion de l'eau. Pareil, il s'est mis à créer quelque chose d'incroyable. La moitié de son set est improvisée. Et à la fin, il y a eu énormément de vent qui est arrivé. Et du coup, il a pris le micro. Enfin, il a vraiment... Le lien s'est créé en fait entre lui et la nature. Et puis sinon, des exemples plus... un peu comme Molécule et l'Igloo, oui, j'en ai beaucoup. Par exemple, Yuxek au Palais de la Découverte. En fait, Yuxek, c'est un artiste qui a collaboré avec Thomas Pesquet, qui a fait un track avec lui pendant qu'il était dans l'espace. Et du coup, le Palais de la Découverte, bah, il y avait complètement un sens là-dedans. J'ai d'autres histoires, par exemple, Dominique Hulberg, qui est un passionné de nature et de chauves-souris. On l'a invité dans un château qui est le château du Haut-Königsbourg en Alsace et qui a une faune et une flore incroyables et beaucoup de chauves-souris là-bas. Et donc, il est venu avec son détecteur de chauves-souris, sans nous le dire d'ailleurs. Donc, il a fait le concert et à la fin, il me dit « Est-ce qu'on peut prendre 20 personnes là et aller voir, enfin écouter les chauves-souris ?» Et du coup, j'annonce ça au micro. Donc, alors là, je peux te dire qu'il y a énormément de monde qui est venu. Et il a fait une visite privée de, je sais pas, des alentours avec son détecteur de chauves-souris.
C'est génial. Voilà, ouais. C'est génial. Et alors, justement, on parlait tout à l'heure de musique électronique et là, on parle de nature. Si je joue le conservateur absolu, on va pouvoir se dire que la musique électronique, c'est antinomique avec la nature. Et qu'est-ce que tu as envie de répondre à ça, d'abord ? Et puis aussi, parce que tu prenais l'exemple du vent tout à l'heure, comment un artiste peut créer du lien entre un lieu et la nature et la musique électronique, justement ?
Mais c'est un commentaire qu'on reçoit très souvent, en fait. À savoir, vous dérangez la nature, l'environnement, vous dérangez les oiseaux, par exemple. Vous allez créer des avalanches quand on est dans la neige, etc. Déjà, dans les lieux vraiment complètement naturels, comme le Salar d'Uyuni, par exemple, la plupart du temps, il n'y a pas de public sur place. C'est vraiment seulement l'artiste en communion avec la nature. La plupart du temps, il n'y a même pas de son, en fait, sur place. L'artiste est avec ses in-ears. Ou alors, on lui met deux petits retours. Mais c'est aussi gros que, je ne sais pas, des enceintes d'ordinateur. Donc, ça ne fait presque pas de bruit. Donc, on ne dérange pas du tout l'environnement. On dérange pas du tout la faune locale et on fait toujours super attention à ne rien laisser une fois qu'on a organisé le tournage, parce qu'au final c'est plus un tournage qu'un événement. Quand il n'y a pas de public, on laisse rien du tout, on fait super attention à ça. Et je pense que la vidéo qui est créée, après, la musique électronique a beaucoup de... comment dire ? Les gens ont beaucoup d'a priori sur la musique électronique. Je pense qu'il faut aller voir... Si vous pensez ça, il faut aller voir, par exemple, cette vidéo de FKJ. Et vous verrez que ce que l'artiste a créé, ce que nous, on a créé avec la vidéo, c'est une ode à la nature plus que une agression, quoi. Enfin, moi, je le vois comme ça, et je pense que très naturellement, entre guillemets, le lien se fait entre la nature et la musique.
Et puis, c'est, enfin, moi, je trouve, c'est ça qui est incroyable, et c'est ton background, cinéma. Ouais. Et ton goût pour la musique, ouais. Qui fait que en fait c'est des scènes qui sont juste hallucinantes. C'est ce qui fait le succès en même temps, oui. Du cercle, je pense.
Oui, tout est créé en fait pour tout est créé par rapport à la vidéo. Donc on va mettre le stage, la scène, on va la mettre exactement là parce que ce sera les meilleurs plans, par exemple, parce que c'est là où on aura un soleil trois quarts pile au bon endroit, etc. On va tout réfléchir, tout est pensé pour la vidéo, même le public. Par exemple, quand on accueille du public, je ne mets jamais d'enceinte trop proche des grosses enceintes, des stacks de son, je ne les mets jamais trop proche de la scène pour que le public puisse être très proche de l'artiste et que la vidéo soit, comment dire, que ça ait un effet immersif en fait. Du coup, mes ingé sons, c'est un casse-tête pas possible pour eux, pour qu'ils arrivent à faire un son plutôt cool pour les gens sur place. Mais au final, ça, quand on voit nos vidéos, je pense qu'on a une impression d'osmose entre l'artiste, le lieu et le public. Et par exemple à Chambord avec Carl Cox, il y a presque pas de scène, on voit presque pas la scène. La scène est toute petite, on met pas des grosses scènes de festival. On l'a fait une fois pour notre festival, mais c'était une erreur d'ailleurs. On le refera plus. Mais justement, le but c'est de faire une scène, le son, la lumière le plus petit possible pour être en osmose avec le lieu.
Une forme de minimalisme.
Ouais. Ouais.
Et justement, tu parles du public, donc parfois il y a du public. Donc les gens, comment on s'inscrit?
On va sur Facebook ou alors on s'inscrit à notre newsletter ou sur YouTube ou Instagram, peu importe, tous les réseaux sociaux. Et en fait, on annonce les concerts très au dernier moment. On les annonce en général une semaine avant.
Ah oui, effectivement.
Donc il faut être rapide et ensuite on ouvre une billetterie et se déplacer éventuellement, oui, effectivement. Et ensuite on ouvre une billetterie et voilà, tout simplement.
Et alors, pour toi, ce lien entre... C'est vrai qu'avec l'essor de la musique en ligne, du streaming, on a vu, enfin moi j'ai l'impression comme ça de l'extérieur, un développement hyper fort des concerts, c'est-à-dire de l'expérience dans la vraie vie, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut pas avoir en ligne. C'est-à-dire comment... Enfin tu vois, c'est toujours cette question de comment je peux, à travers la vraie vie, avoir quelque chose que je peux pas avoir sur le digital. Et j'ai la sensation, enfin peut-être que tu peux me dire l'inverse, hein, j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce lien, cette connexion, cette osmose qui se crée quand tu fais un concert, t'es là au moment où ça se passe en fait.
Ouais.
Pour toi, c'est quoi le lien qui se crée à travers la musique entre les gens qui sont présents? Enfin, comment tu l'envisages? Comment tu vois ça, toi?
C'est un peu particulier parce que justement, nous, comme on retransmet les concerts en direct sur les réseaux, même sur Facebook et YouTube, les gens sont plus seulement spectateurs du concert, ils sont acteurs d'une vidéo. Et du coup, en fait, justement, c'est pas seulement vivre le moment, le concert, mais c'est aussi savoir qu'on est les gens savent qu'ils sont filmés. Du coup, ça crée une ambiance complètement différente. Et ils deviennent acteurs de la vidéo. Et ils sont plus passifs, quoi, seulement. Ils sont vraiment actifs dans l'expérience.
Du coup, ils n'ont pas tous leur téléphone dans la main.
Alors, au début, ils ont forcément tous leur téléphone dans la main. D'ailleurs, on est beaucoup critiqué. C'est un sujet qui revient souvent. Est-ce qu'on devrait interdire les téléphones, etc. Si, parce qu'après ça reste quand même un lieu incroyable, donc t'as toujours envie de sortir ton téléphone pour prendre une vidéo, mais en tout cas on sent, il faut venir une fois pour le sentir, mais on sent que le fait qu'il y ait les caméras, ça change quand même quelque chose.
D'accord.
Moi c'est surtout ça qui me marque à chaque fois dans les concerts qu'on organise, c'est ce lien-là qui se crée entre, puis il y a aussi un lien entre les gens en ligne et les gens sur place.
Comment ?
Comme c'est du direct, les gens peuvent commenter.
Ouais.
Ils peuvent aussi, alors à la fin de la prestation, il y a une interview en direct aussi. Donc les gens peuvent poser des questions à leur artiste préféré partout dans le monde. Donc forcément, il y a un lien qui se crée. Et puis les gens se parlent. Ah, t'étais là, non. Enfin, on voit des commentaires. Et puis il y a aussi entre amis, on dit. Enfin, les gens se voient dans la vidéo. Donc il y a un lien qui se crée entre le en ligne et le en vrai, in real life.
Et j'ai la sensation, moi, que On me posait la question dernièrement, pourquoi la musique électronique était en plein essor? Et moi, j'ai la sensation, mais c'est mon expérience, et peut-être que c'est pas la vraie, j'en sais rien, que la basse, en fait, t'emmène ouais. dans une sorte de transe. Enfin, je sais pas si oui, tu vois. Oui, et oui. du coup, quand t'es à plusieurs comme ça, il y a une forme de transe.
Ah oui.
Commune, enfin, ah, je sais ouais, pas comment appeler ça comme. Mais il y a, bah, y a vraiment
ça. En fait,
ça.
C'est, pour moi, c'est très lié à notre nature, à la base de notre vie, quand on est dans le ventre de notre mère, même au battement de notre cœur, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Je le sens très, enfin, la musique électronique, quand je rentre dans une salle ou dans un sound system avec une basse, c'est quelque chose de très, viscéral, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est physique.
Et,
hein.
C'est physique, et puis c'est, oui, oui, et puis il y a un truc, oui, effectivement, avec les autres, où on est tous dans le rythme. Il y a quelque chose de très je sais pas comment dire
ouais, c'est organique, non,
oui,
je
voilà.
sais pas,
il y a vraiment mais c'est ça. Très c'est très lié à au battement du cœur, à la vie, en fait, enfin moi je le vois, c'est pour ça que je trouve, enfin pour ça que moi j'adore la musique électronique, parce qu'il y a un truc très au-delà de la mélodie, il y a avec le beat, il y a quelque chose de très fort, quoi, mais aussi dans la musique dans le hip-hop aussi, enfin dans d'autres musiques aussi, hein, d'ailleurs. Dans le rock aussi.
Oui, ouais, bien sûr, dans le rock, ça peut arriver aussi, bien sûr. Et alors, du coup, tu as tous ces événements. Comment, en fait, je ne t'ai même pas posé cette question, j'aurais pu te la poser en premier, mais en même temps, ça n'aurait pas été rigolo. Comment on passe de moi, Derek, dans ma chambre, j'exagère un peu, mais un peu ça,
non,
à je reçois les plus gros artistes du monde dans les lieux les plus improbables du monde. Comment ça se passe, ça, en fait? Non, parce que, tu vois, je pense qu'il y a aussi plein de gens qui se disent c'est super, mais qui, enfin, bon, j'imagine que les gros fans connaissent tous l'histoire, mais comme il y a plein de gens qui ne connaissent pas non plus.
Ouais. C'est arrivé super vite, en fait. Au début, moi, c'était vraiment un hobby, c'était plus pour rigoler, en fait, avec des amis que je faisais ça. Et petit à petit, il y a eu... voilà. Ce qui est marrant, c'est que mes amis me disent tout le temps...
Ils sont tous DJ.
Non, c'est pas ça. Mais ils me disent tout le temps, non, mais si, moi, je voyais que t'avais la volonté de faire ça. Moi, je l'ai pas senti comme ça, en tout cas.
D'accord.
C'était vraiment plus comme un jeu. Et en fait, j'ai rencontré mon actuel DA, qui gérait, qui était dans le monde de la musique électronique depuis pas mal d'années, depuis au moins plus de 10 ans, qui gérait un club, qui gérait la DA du Faust à Paris.
D'accord.
Et donc il connaissait un peu tous les labels, tous les artistes, etc.
D'accord.
Donc il a apporté toute la partie artiste au projet, parce que moi, à part mes quelques potes DJ, ça n'allait pas très loin, je sortais beaucoup, mais c'est tout. Et on s'est dit, bon, on fait un gros coup, on contacte la Tour Eiffel. Donc j'envoie un mail, formulaire de contact.
Sérieux ?
Voilà, à la société d'exploitation de la Tour Eiffel. Le lendemain, il m'appelle. Incroyable.
C'est improbable.
Improbable. Oui, bah, on aime bien votre projet, c'est cool. Ils venaient de faire pour TF1 Kungs ou je sais pas quoi, un tournage. Donc ils étaient un petit peu dans la musique électronique, ils étaient dedans. Donc ils ont dit, bah, pourquoi pas ce projet-là. Et donc ils me proposent de faire un repérage. Quelques jours après, je visite les différents lieux possibles. Et là, il y a le toit du Jules Verne au deuxième étage qui est libre. Enfin, c'est, il y a, je sais pas, 10 mètres carrés, mais on peut très bien mettre un artiste juste et quelques caméras. Donc, pas de public. On fait l'émission et ça cartonne complètement.
C'était qui l'artiste ?
C'était Môme. Je ne sais pas si tu connais.
Non, je ne connais pas en plus.
Qui était vraiment en pleine ascension à ce moment-là. Et voilà, on fait, je crois, 700 000 vues à ce moment-là. C'était énorme pour nous.
Bien sûr.
En direct, on est contacté par plein de monde. Il y a Jack Lang qui a vu l'émission, etc., qui nous envoie félicitations, des majors qui nous contactent, Universal qui nous contacte.
Mais parce que du coup, ils veulent mettre en avant leur artiste.
Voilà, et ça devient... Et en fait, depuis ce moment-là, donc le lundi d'après, on n'avait rien de prévu. Donc c'était la panique totale. Et depuis ce moment-là, on ne s'est jamais arrêté. Et tous les lundis, pendant 2 ans, on n'a pas arrêté de faire une émission...
Ouais, mais enfin ouais, parce que ce rythme, moi déjà je vois pour mon podcast, tu vois, j'en fais un par semaine et je trouve que c'est énormément de temps.
Ah, c'est énorme. Enfin,
ça prend du
bien,
temps. Ouais. Et du coup, je me dis, mais quand tu fais un événement comme ça où tu dois trouver un lieu incroyable, plus un DJ, enfin un artiste incroyable, plus potentiellement faire venir du public, etc. Comment t'en concrètement
bah,
comment t'en
là, je pense que c'est, je sais même pas comment on a. Honnêtement, je ne sais pas comment on a réussi à tenir. C'était très très fatigant. On travaillait vraiment tous les jours, toute la journée. Mais je pense que c'est la passion, et puis à chaque fois de voir les gens super enthousiastes, à fond, on recevait énormément de messages, ça te booste à fond, quoi. Donc tu continues, tu cherches, et puis tu cherches aussi à impressionner les gens, parce que tu vois sur Facebook au début, donc il y a ça aussi qui a beaucoup joué. Facebook, Mark Zuckerberg, il lançait son live. Ouais. À l'époque, pile en même temps de la création de CERN, donc ça a beaucoup aidé. Mais de plus en plus de live apparaissaient, donc on voulait se démarquer. Donc à chaque fois, on cherchait des lieux encore plus incroyables, des artistes encore plus incroyables. Et puis c'est un peu cette course à toujours plus impressionner tout le monde. Donc ça te motive. Et voilà. Je pense que c'est pour ça qu'on a réussi.
Mais dans ce que j'entends, il y a quand même il y a ça, mais il y a aussi une forme de générosité en fait.
Oui,
de toute façon, la musique, l'artiste, il a forcément une démarche généreuse.
Complètement. Ouais.
Et vous, dans l'expérience que vous proposez, et le fait de le faire en live aussi, parce que le live, c'est quand même dangereux. Je veux dire, tu peux te planter. Il y a plein de manières pour lesquelles tu n'as pas forcément envie de faire un live. Là, par exemple, on enregistre pas en live.
Ouais. je pense que c'est aussi ce qui nous. C'est notre moteur, le risque. Nous, on prend énormément de risques et je pense que si on prenait pas de risques, ça nous intéresserait pas dans l'équipe. Et on a eu beaucoup de problèmes à cause du live aussi, mais justement, c'est ça qui nous plaît. Et oui, la générosité, si on parle de générosité, il y a plein de concerts qu'on organise où on perd de l'argent, quoi, par exemple.
Ah ouais?
Ouais. Donc, du coup, là, si je parle de générosité, purement même financière, elle y est, puisque par exemple, FKJ au salaire d'Ouyuni, c'est énormément d'argent d'investi. Nous, on considère que c'est plus un investissement que de perdre de l'argent. Et puis, tous les concerts sont accessibles gratuitement pour tout le monde. T'es pas obligé de venir au concert. Après, bien sûr, c'est mieux de venir.
Ouais, tant qu'à prendre une place.
Voilà. mais voilà, ouais.
Et votre business model, il est avec YouTube, du coup?
Alors, on gagne très peu d'argent avec YouTube parce qu'en fait, déjà, il faut qu'on ait tous les droits sur toutes les musiques jouées. Donc, ça arrive que quand c'est un live et pas quand c'est un DJ set. Mm-hmm. Et quand c'est un live, en plus, on partage avec l'artiste. Et en plus, comme tu dois le savoir, c'est très très mal payé sur YouTube. Donc, on a beau faire beaucoup de vues sur YouTube, c'est pas du tout grâce à ça qu'on gagne de l'argent. Nous, notre business model, c'est vraiment la billetterie.
D'accord.
C'est les billets qu'on vend et puis le bar quand on gère le bar. Un petit peu de sponsors, mais on travaille très peu avec les sponsors justement pour pas. Entre guillemets, gâcher justement l'harmonie entre le lieu, l'artiste et puis un logo Coca, ça ne m'intéresse pas. <quoi. rire>
Non, mais c'est bien, parce que tu sais, en fait, moi, quand ça paraît simple comme ça de le dire, parce que les gens te disent, ah bah ouais, c'est super, mais en fait, quand les gens te disent ça, tu dis oui, mais imagine, tu pourrais gagner, je sais pas, X milliers d'euros sans faire de travail supplémentaire, c'est la même chose.
Ouais.
Mais sauf qu'en fait, d'un coup, je peux gagner 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 euros. Tu fais quoi? Et là, les gens te diraient, non, je te parle pas de toi. Les gens te diraient, ah ben non, mais je prends les 40 000 euros. Parce qu'en fait, ça paraît hyper logique, c'est hyper sympa qu'il n'y ait pas de pub. Mais en réalité, pour vous, c'est un vrai choix. C'est pas neutre, en fait. Hein. C'est hyper sympa quand t'es de l'extérieur. Mais en réalité, travailler comme ça en se disant, nous, on le fait parce qu'on a des convictions et qu'on n'a pas envie de gâcher l'expérience. Moi, je trouve ça assez fort, en réalité.
Oui, oui, ça a été un vrai choix. Ça a été énormément de discussions parce que le business model, comme c'est un projet qui n'a pas été créé, justement, à la base pour gagner de l'argent, mais qu'il a fallu qu'on en gagne un moment pour que ça existe.
Au moins pour, parce que ça prend du temps en fait.
Voilà. Oui, puis voilà. Du coup, on s'est posé beaucoup de questions et on se pose toujours même des questions sur comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent, etc. Et ça a été un choix à un moment. Donc on a essayé de travailler, avec des sponsors. Ça a bien marché de temps en temps. D'autres, on est moins content du résultat. Et du coup, après 2-3 erreurs, on s'est dit non, mais ça, on n'en veut plus. C'est comme avant, on travaillait aussi. On filmait des concerts pour d'autres marques des labels ou filmait
parce qu'ils avaient une compétence particulière.
Voilà. Mais ça, on a arrêté de le faire aussi parce que ça nous déviait de la première mission qui était le projet.
Comme vous avez, j'imagine qu'il y a peut-être que vous le faites, j'en sais rien, mais il y a peut-être des marques qui vous ont demandé d'organiser des événements pour eux.
Oui, complètement. Et on l'a fait. Ouais. On a par exemple, on a le dernier qu'on a fait, et d'ailleurs c'était le dernier, c'était pour Virgil Abloh, pour Evian, avec Virgil Abloh, et la sortie de la nouvelle bouteille qu'ils ont fait en collaboration avec Virgil Abloh. Donc on a booké le lieu, on a booké l'artiste, on a fait toute la prod, on a tout fait. En simultané justement avec ce fameux concert d'FKJ au Salar de Uyuni. Donc en même temps, j'avais une équipe à Paris et nous en Bolivie. Donc ça nous a permis, tu vois, de financer FKJ.
Ouais.
Mais en même temps, c'est un travail fou. Enfin, je veux dire, mes équipes ont travaillé, je sais pas combien de temps dessus. Et en fait, on s'est rendu compte que ça nous déviait complètement de notre
votre route.
Bah oui, voilà.
Et alors toi, tu me disais, vous êtes déjà booké jusqu'à octobre l'année prochaine, c'est ça?
Les lieux sont déjà bookés jusqu'à octobre 2020. Ouais.
C'est fou. Et aujourd'hui, en fait, la situation. Donc, j'imagine que les artistes se bousculent un peu maintenant. Voilà. C'est hyper connu.
Ouais, maintenant, c'est.
Est-ce que les lieux se bousculent aussi? Ça arrive que des. Parce qu'il pourrait y avoir des régions. Tu vois, moi, j'imagine. Enfin, j'ai déjà vu passer pas mal de campagnes de pub pour des régions. Tu vois, j'imagine. Enfin, j'ai en tête des îles en Australie ou.
Oui.
Des régions qui essaient de se faire reconnaître. Ouais. Tu vois plein de pubs pour des pays ouais. Un peu dans tous les sens dans le métro. Est-ce qu'il y a des régions qui viennent vous approcher comme ça?
Oui.
Aussi, ouais.
Ouais. Le truc, c'est que là, je peux pas parler d'un exemple précis, mais il y a des pays qui sont en train de changer complètement leur politique. Par exemple, le Moyen-Orient, je peux pas citer le lieu particulier, pays exactement, mais il y a des pays, par exemple, qui sont en train de changer complètement leur politique vis-à-vis touristique,
ouais.
Qui sont en train d'ouvrir complètement leurs frontières et qui sont en recherche de, tout comme par exemple, ils vont chercher des influenceurs, des Instagrammeurs, ils sont en recherche de nouveaux contenus, de nouveaux projets. Et ça, l'aspect musical, l'aspect culturel en fait, du projet les intéresse énormément. D'accord. Donc oui, on a des demandes de lieux. Par exemple, à Singapour, c'est eux qui nous ont contactés.
D'accord.
Chambord pour le festival, ça venait d'eux aussi. Enfin, c'est souvent le lieu qui nous contacte d'ailleurs.
Ah, c'est excellent. Et alors, si je devais te... Si tu avais le... Je sais pas, on a dû te poser 50 000 fois la question, mais c'est pas très grave, je vais te la poser quand même. Si tu pouvais choisir, qu'est-ce qui te ferait ultra kiffer un artiste ou un artiste dans un lieu ou...
Je ferais bien la tournée des 7 merveilles du monde. Parce que déjà, j'arrive pas à en avoir une seule. C'est très compliqué. Ça, c'est au niveau des lieux. Après, il y a des lieux... moi, j'aimerais bien tourner dans l'espace, sur la Lune, et des trucs j'imagine. Un petit peu...
Ouais.
Avec Elon Musk, si tu nous écoutes.
Si tu nous écoutes, en français.
Voilà, en français, en plus, encore moins de chance, quoi. Voilà, non, au niveau des lieux, j'ai plein de rêves. Et au niveau des artistes aussi. Enfin, par exemple, Laurent Garnier, c'est un artiste que j'apprécie particulièrement.
Ouais.
Et pour l'instant, qu'on n'a pas eu la chance d'inviter, mais je pense qu'il attend le bon lieu.
Ouais. Ouais, parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Il y a cette synchronicité entre, c'est ça qui est beau, en fait. Exactement. La synchronicité entre le lieu, la personne. Et est-ce que vous êtes intéressé à Jean-Michel Jarre? Ah, parce qu'en fait, Jean-Michel Jarre, il avait cette idée à l'origine de faire des concerts grandioses, en fait.
Ouais. Ah, bah, complètement. Jean-Michel Jarre, j'adorerais le recevoir un jour. Mais c'est pareil, en fait, c'est des légendes. C'est comme Daft Punk, tu vois, c'est un peu des légendes de la musique électronique. Et parfois, on n'ose même pas... Je crois que Jean-Michel Jarre ou Daft Punk, on n'a jamais envoyé une request, quoi. Parce qu'on n'ose même... Pour nous, c'est compliqué. On attend peut-être d'avoir le lieu... tu vois, c'est un truc, c'est au feeling. Quoi. D'avoir le lieu qui colle, vraiment. Mais oui, c'est, le lieu, c'est... Enfin, je veux dire, l'artiste... dans la musique électronique, il n'y a pas beaucoup l'aspect clip... Il y a pas, on se rend compte, il y a pas beaucoup de clips, contrairement par exemple au rap, tu vois. Il y a pas beaucoup d'univers vidéo, et alors que en fait c'est une musique qui colle complètement à l'image, quoi. Et du coup, les artistes sont très, enfin je veux dire, ils vont faire vraiment très attention au lieu.
Ils vont pas
dire au hasard, moi je veux ce lieu naturel. Par exemple, FKJ, je veux dire, on lui a proposé 50 lieux avant qu'il accepte, voilà, qui colle le plus à son univers, quoi.
Ça, c'est génial. Et alors, ce podcast s'appelle Vlan. Donc, je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte.
C'est compliqué. En plus, j'y ai pas réfléchi. J'aurais dû y réfléchir.